Bonjour à toutes et à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Louis Drillon, Cédric Fuentes, Arjuna Andrade, Léa Sabourin et Guillaume Ménard. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Emmanuel Morzinkan.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Nous achevons notre série consacrée à la concurrence, pilier de l'économie de marché et objet de multiples débats théoriques et pratiques. Hier, nous avons interrogé la politique européenne de la concurrence après le rejet de la fusion Alstom-Siemens, une politique dont l'application trop stricte fragiliserait les industries européennes face aux géants américains et chinois. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les ententes entre les firmes et sur les stratégies des États pour combattre ces pratiques. La concurrence est une réalité mouvante qui demande aux législateurs de s'adapter sans cesse aux nouveaux stratagèmes des entreprises, comme à l'état de santé de l'économie. Il est 14h, passé de 1 minute sur France Culture. Entendez-vous l'écho ? Nous allons parler de la lutte contre les cartels en compagnie d'Emmanuel Combes, économiste, vice-président de l'autorité de la concurrence, professeur à l'université Paris 1 et auteur de cet ouvrage « La politique de la concurrence » paru à la Découverte. En fin d'émission, on retrouvera les nouvelles de l'écho présentées par Arjuna Andrade et la chronique de Guillaume Duval, notre partenaire d'Alternatives économiques. Bonjour Emmanuel Combes.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Alors nous avons vu mardi, dans le deuxième épisode de notre série, que les premières théories de la concurrence étaient apparues au XVIIIe siècle. En revanche, si l'on exclut le cas des États-Unis, ce dont on se rend compte, c'est que les législations encadrant la concurrence sont apparues plutôt récemment.
Oui, tout à fait. Si on exclut le cas américain, donc 1890 avec le Sherman Act, en réalité, les premières politiques de la concurrence datent de l'après-Seconde Guerre mondiale. Tout d'abord en Allemagne, à l'époque la RFA, et ensuite la politique de la concurrence est véritablement née avec l'Europe, c'est-à-dire en 1958. Prenons le cas de la France, la véritable politique de la concurrence au niveau national est née en 1986. Donc ce sont des choses relativement récentes. Peut-être, il y a sans doute plusieurs explications, parce que nous n'avons pas cette culture, je dirais, de l'économie de marché en Europe continentale par rapport notamment aux États-Unis. Donc ça n'est pas complètement un hasard si la politique de la concurrence est apparue tardivement, parce que la concurrence elle-même est une idée relativement nouvelle. N'oublions pas que la liberté des prix en France est date de 1986.
Alors il y a les pays industrialisés, mais il y a aussi les pays émergents et en développement, et pour eux c'est arrivé dans les années 90, un peu après Emmanuel Combes.
Oui, et ce d'autant qu'il y a un véritable débat, est-ce qu'il faut mettre en place une politique de concurrence avant de se développer, ou est-ce que la politique de la concurrence n'est pas finalement le résultat du développement ? Mais vous avez raison, vous avez des pays, par exemple, comme la Corée du Sud, qui, je vous le rappelle, est aujourd'hui un des plus grands pays industriels au monde, un grand pays de l'OCDE, qui a mis en place une politique de la concurrence très très dure, avec notamment des peines de prison pour ceux qui font des cartels, etc. Mais une fois qu'il a accédé au statut de pays industrialisé. Il est vrai que beaucoup de pays en voie de développement n'ont pas encore de politique de la concurrence de ce nom, ce qui est problématique. Car on va sans doute y revenir, n'oublions pas que la politique de la concurrence peut-être les protéger contre des pratiques, notamment d'entente, mises en œuvre par des firmes étrangères sur leur propre territoire.
Alors c'est déjà pour combattre ce type de pratiques ou les concentrations d'entreprises que les États-Unis ont été ainsi le premier pays à mettre en place des lois antitrust à la fin du 19e siècle.
Rockefeller constitue dans les années 80 une société, donc le groupe de la Standard Oil, 80% du marché américain des produits raffinés. C'est un cas passionnant parce que Rockefeller se trouve dans une double position de monopole et de monopsone. Il vend 80% des produits raffinés aux consommateurs individuels. Monopsone, il achète 80% du pétrole brut aux milliers de petits producteurs. Donc il a un pouvoir de marché à l'aval. Il a un pouvoir de marché à l'amont. C'est un des rares cas dans l'histoire économique. Mais derrière ce que je dis, vous comprenez dans cette Amérique magnifiquement analysée par Tocqueville de pouvoir et de contre-pouvoir, que les agissements de Rockefeller n'ont pas fait la joie de tout le monde. Les consommateurs ont un peu l'impression de payer un prix de monopole. Les producteurs de pétrole brut ont l'impression qu'ils vendent le prix au prix décidé par Rockefeller. Et les raffineurs n'ont pas été très contents de se vendre dans des conditions discutables à Rockefeller. Donc, une agitation intellectuelle qui se fait aux États-Unis, qui aboutit en 1890 à la première loi antitrust du monde, la loi Sherman.
Voilà l'économiste Jean-Marie Chevalier. C'était lors d'une conférence donnée le 24 mai 2000 au Conservatoire national des arts et métiers. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette première législation, le Sherman Act, Emmanuel Combes ?
Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est motivée véritablement par des considérations qui ne sont pas que des considérations économiques, mais aussi des considérations de justice sociale. Et je ne résiste pas au plaisir de vous lire une phrase de ce fameux sénateur, un Sherman Act, qui dit « La conscience populaire est troublée par l'émergence de problèmes nouveaux qui menacent la stabilité de l'ordre social. » Donc il y a bien l'idée qu'au fond, rétablir la concurrence, ce n'est pas seulement une histoire d'efficacité économique. Bien sûr, ça fait baisser les prix. C'est aussi une notion de démocratie économique. L'idée que chacun puisse tenter sa chance. Et dès lors que vous avez un phénomène de concentration très forte, par définition, vous arrivez à des phénomènes de captation du pouvoir.
Et donc le Sherman Act et les législations qui vont suivre vont permettre de démanteler ou au moins d'inquiéter des grands trusts américains comme justement la Standard Oil Company.
Oui, la Standard Oil sera démantelée, c'est-à-dire découpée littéralement en morceaux. Il faut bien voir que le droit américain, contrairement à peut-être l'image qu'on a des États-Unis, c'est un pays à la fois de liberté économique mais aussi de sanctions extrêmement dures. Et le Sherman Act prévoit en effet la possibilité, dans des cas ultimes, il y a eu quelques exemples dans l'histoire, de démanteler une entreprise qui aurait abusé de sa position dominante. Vous le savez peut-être, une entreprise récemment, enfin il y a maintenant 20 ans, Microsoft, le juge Jackson à l'époque avait envisagé de découper également Microsoft en deux. Donc en effet, le Sherman Act est une disposition qui existe toujours, qui est extrêmement dure, à la fois en termes de sanctions et en termes de pratiques poursuivies, puisqu'elle concerne à la fois les ententes et les abus de position dominante.
Et dans le cas de Microsoft, pourquoi cela n'a pas été fait ?
Ah, faudrait rouvrir le dossier, je l'ai pas sous les yeux. Le juge Jackson, il y a dû avoir un changement de majorité et finalement Microsoft a simplement écopé d'une sanction pécuniaire. Mais il faut voir qu'aux États-Unis, on y reviendra peut-être, le droit est très dur, on peut aussi avoir des poursuites pénales contre les personnes physiques. Au pays de la liberté économique, violer les règles de la liberté et notamment faire une coalition contre l'intérêt des consommateurs peut vous coûter extrêmement cher.
On va voir que la question des sanctions est effectivement essentielle. Et ce qui est intéressant, pour rester encore un peu sur le cas des États-Unis, c'est qu'entre la crise de 1929 et la Seconde Guerre mondiale, la lutte contre les monopoles est finalement vue aux États-Unis comme une entrave au développement de l'économie.
Tout à fait. L'antitrust, c'est-à-dire la politique de la concurrence, a été mise en sommeil, en effet, à partir de 1932-1933 par Roosevelt, au nom justement de la crise économique. Et les études ex poste, après coup, montre qu'en réalité, ça a été une erreur. Que finalement, la concentration industrielle n'est pas une bonne chose lorsqu'il n'y a plus de règles de concurrence. Et j'attire votre attention sur le fait qu'aujourd'hui, aux États-Unis, en tout cas depuis plusieurs années, on a à nouveau ce débat, qui est de dire, au fond, est-ce que les États-Unis n'ont pas trop laissé faire, notamment dans le numérique, la concentration de grands acteurs, et finalement, en mettant en sommeil l'antitrust, les autorités de concurrence, on n'arrive pas à nouveau à des phénomènes de concentration des pouvoirs.
C'est ce qui explique qu'effectivement Elizabeth Warren, la sénatrice démocrate, propose de démanteler les fameux GAFAM, les géants du numérique. Ce qu'on voit finalement, c'est que l'histoire de la politique antitrust aux États-Unis au XXe siècle est marquée, Emmanuel Combes, par des allers-retours entre renforcement de la lutte contre les monopoles et tolérance à l'égard des concentrations.
Oui, il y a véritablement une alternance. Alors, ce n'est pas forcément une alternance qui correspond à des alternances politiques, mais traditionnellement, les républicains sont plutôt favorables à mettre en sommeil l'antitrust, alors que les démocrates ont plutôt une action très forte. Je pense notamment à l'ère Kennedy-Johnson, qui a été une ère très dure à l'encontre des grandes entreprises. Vous avez aussi l'ère Clinton, qui a été une ère de pénalisation, notamment des cartels. Même si on ne peut pas réduire ça à des alternances politiques, c'est vrai que l'histoire des États-Unis, c'est l'histoire d'une alternance plus ou moins forte dans l'application des règles d'antitrust. Et on voit en tout cas clairement, depuis une dizaine d'années, que l'antitrust aux États-Unis n'a pas jouer en tout cas le rôle qu'il a pu jouer par le passé.
Alors on a parlé de la situation des pays émergents, on commençait à l'évoquer au début de cette émission. Est-ce que c'est lié aussi au fait que dans les années 90, en Amérique latine, mais aussi en Asie, des politiques de la concurrence se mettent en place aussi dans une période de libéralisation de l'économie, Emmanuel Combes ?
Oui, alors il faut bien voir que les pays d'Asie du Sud-Est ont mis en place depuis maintenant une quinzaine d'années une véritable politique de la concurrence, y compris en Chine. On n'a peut-être pas toujours conscience. On retrouve cela également au Brésil, avec l'idée qui est la suivante. La politique de la concurrence vise non seulement à lutter contre des pratiques mises en œuvre sur leur propre territoire, par des firmes nationales, mais également est un moyen de lutter contre des pratiques mises en œuvre par des firmes étrangères sur leur propre territoire, que ce soit des pratiques d'entente ou même parfois d'abus de position dominante. Au fond, le continent qui est resté peut-être un petit peu à part en matière de politique de la concurrence, c'est l'Afrique, quoique vous avez de grands pays comme le Kenya qui ont appliqué une politique de la concurrence
ou l'Afrique du Sud
qui ont appliqué une politique de la concurrence extrêmement dure. Mais vous avez raison, que ce soit en Amérique latine ou que ce soit en Asie du Sud-Est, tous ces pays qu'on appelle émergents, ont considéré que la politique de la concurrence devait accompagner leur développement.
Ce qui nous permet de relancer le débat que vous ouvriez il y a quelques instants. Est-ce qu'il faut attendre le décollage économique d'un pays pour mettre en place un droit de la concurrence? C'est l'avis de certains économistes. Quels sont leurs arguments, Emmanuel Combes?
Alors, les arguments en faveur de la mise en place d'un droit de la concurrence très tôt, c'est l'idée que lorsque vous développez, vous avez besoin par définition ce qu'on appelle en anglais des inputs, c'est-à-dire des ingrédients, des matières premières. Or, ces matières premières, ce sont souvent des marchés sur lesquels il y a un très petit nombre d'opérateurs, prenez le marché du ciment. Et donc, si vous n'avez pas de producteurs nationaux, vous allez importer ces matières premières. Pour peu que les entreprises étrangères forment un cartel à l'exportation, vous allez en fait payer beaucoup plus cher ces matériaux. Et donc, il est de votre propre intérêt de mettre en place une législation anti-cartel pour justement prévenir ce type de pratique. Les opposants à ce genre d'argumentation vous diront, très bien, vous allez avoir une politique de la concurrence, mais quelle sera son effectivité? Car les preuves matérielles ne sont pas dans le pays qui importe, elles sont bien sûr dans les sièges sociaux des entreprises qui sont très souvent situées dans des pays riches. Mais l'idée de base est quand même de dire, en mettant en place une politique de la concurrence, on permet l'achat de matières premières, de produits intermédiaires à des prix compétitifs et on évite que sur son propre territoire ne soient menées des pratiques anticoncurrentielles.
Et de quel côté vous situez-vous vous-même, Emmanuel Combes?
Ben moi, j'ai plutôt tendance à penser, et je rejoins en ce sens les thèses de l'OCDE, qu'un pays a toujours intérêt à mettre en place une politique de la concurrence, une politique relativement peu coûteuse et qui permet notamment de régler certains problèmes d'accès à des choses très simples. Je pense par exemple à des matières premières ou même des produits alimentaires essentiels comme le lait, le sucre, qui bien souvent ont fait l'objet dans l'histoire de cartels.
Alors justement, vous parlez des cartels. La lutte contre les cartels constitue un axe essentiel des politiques antitrust. Comment se forme un cartel, Emmanuel Combes? Quel est son objectif?
Alors l'objet d'un cartel, c'est de mettre fin à la concurrence qui s'exerce entre 2, 3, 4, 5 entreprises et donc qui fait baisser les prix. Donc un cartel peut prendre plusieurs formes. Je vais prendre deux exemples. D'abord, on peut s'entendre pour fixer ensemble tout simplement le prix de vente. C'est-à-dire qu'on supprime la concurrence entre nous. Ou alors on peut aussi s'entendre en se répartissant les marchés géographiques. Vous ne venez pas sur mon marché domestique et je ne viens pas chez vous. Quelle que soit la manière d'organiser un cartel, le but est toujours le même, faire monter les prix sans aucune contrepartie pour le consommateur. C'est bien ça le problème. C'est une pratique au fond qui relève presque, pardonnez-moi l'expression, du vol. Puisqu'un bien que vous auriez dû payer, mettons 10 euros, vous allez le payer 15-20% plus cher du seul fait que vous avez supprimé la concurrence entre les acteurs.
C'est ce que montrent les études empiriques, une hausse de prix de environ 15 à 20%.
On a des études empiriques assez intéressantes, notamment de l'Université de Toulouse, qui montrent sur des échantillons assez larges que les grands cartels internationaux feraient monter les prix de l'ordre de 15 à 17%, ce qui est relativement conséquent.
Et alors pour lutter contre ces cartels, quelles sont les stratégies mises en place par les États? Pour le savoir, je vous propose de faire un petit détour par la théorie avec l'économiste Gary Becker.
Pour le dire le plus simplement possible, le choix rationnel consiste pour un acteur quelconque à envisager plusieurs possibilités différentes avant de prendre une décision en fonction des ressources limitées dont il dispose, en fonction de ses préférences et en anticipant un certain degré d'incertitude. Voilà en gros en quoi consiste la théorie du choix rationnel. Alors en partant de cette idée très simple et en la mettant en contexte, on peut tirer des conclusions qui permettent de définir des politiques publiques. Donc si vous élaborez une politique publique quelle qu'elle soit, vous allez forcément affecter le choix des gens, modifier ce qui les incite à agir. Donc puisque toutes les politiques publiques influent sur les incitations, il est essentiel de comprendre le choix des agents avant de pouvoir discuter intelligemment de la mise en place de ces politiques.
On entendait donc l'économiste américain Gary Becker lors d'une interview sur la chaîne UCTV en mai 2013. En quoi ces propos peuvent-ils nous aider à comprendre la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles, Emmanuel Combes?
En fait, ils sont fondamentaux. Ces propos sont fondamentaux. D'ailleurs, ils vont bien au-delà de la lutte contre les cartels. À mon sens, ils s'appliquent à toute lutte contre la criminalité, quelle qu'elle soit. Elles partent d'un principe très simple au fond. Hein. Si vous voulez lutter contre des crimes ou en tout cas des actions illicites, il faut être au moins aussi rationnel que ceux qui violent la loi. On voit bien qu'une entreprise qui s'engage dans un cartel, elle ne le fait pas par passion, elle le fait par pulsion, elle le fait au terme d'un calcul rationnel. Elle va comparer quoi finalement ? Le gain illicite ? Eh bien, le gain illicite, c'est très simple, c'est le surprix qu'elle va gagner grâce à cette pratique. Et elle va le comparer à quoi ? Au coût, si elle se fait attraper par une autorité antitrust et qu'elle se fait condamner, multiplié par la probabilité de se faire prendre. Donc au fond, si vous voulez lutter contre les pratiques illicites, il faut être au moins aussi rationnel que ceux qui les mettent en œuvre. C'est-à-dire qu'il faut mettre en œuvre des sanctions qui soient assez dissuasives. Pour faire simple, la sanction doit être au moins égale, en théorie, au gain illicite divisé par la probabilité de détection. Moins j'ai de chances de me faire attraper, plus la sanction doit être élevée.
Mais alors justement, avant d'en venir aux sanctions, ce qu'il faut voir, c'est quels sont les facteurs qui favorisent les phénomènes d'entente, parce que ce qu'on constate, c'est que tous les secteurs de l'économie ne sont pas concernés de la même façon par la formation de cartel.
Tout à fait. Il y a des conditions propices. On pourrait presque dresser un portrait robot du cartel. Ça n'est pas une condition nécessaire, mais ni une condition suffisante. Mais très souvent, les cartels, ce sont des pratiques sur des marchés intermédiaires. Oui, des produits assez simples, assez homogènes. C'est plus facile de discuter et de s'entendre sur un produit simple que sur un produit compliqué. Secondement, ce sont souvent des marchés avec un petit nombre d'acteurs. Pourquoi ? Il est plus simple de s'organiser, de se concerter, de garder le secret. Car ce sont des pratiques illicites lorsque l'on est peu nombreux. Troisième facteur qui peut également rentrer en compte, la similitude des acteurs. On a d'autant plus de chances de se comprendre et de parvenir à un accord, fût-il secret, lorsqu'on a par exemple les mêmes tailles, la même histoire. On voit très souvent que les cartels, ce sont des cartels entre des entreprises souvent d'un certain âge, qui ont une certaine connaissance du marché. Il est rare de voir des cartels avec des start-up, puisque par définition, les start-up n'ont pas véritablement d'histoire. Donc oui, il y a un portrait robot des cartels. Les cartels ont tendance à se développer plus tôt sur certains types de marchés.
Et par exemple, quels seraient les secteurs qui sont les plus concernés ?
Alors, ce qu'on peut regarder, alors, il ne s'agit pas d'être accusatoire, mais on peut regarder en tout cas l'histoire. Si je prends le cas de l'Europe, nous avons fait avec une collègue une étude sur 50 ans de cartels, donc sur un échantillon de 111 cartels qui se sont fait attraper en Europe, et on s'aperçoit que ce sont très souvent des industries telles que la chimie, telles que la métallurgie, c'est-à-dire des produits qui en fait vont affecter qui ? Pas directement des consommateurs finaux, mais d'autres entreprises, et en cela vont nuire à la compétitivité de notre économie.
Et c'est moins visible.
Et c'est moins visible, tout à fait.
Alors, certains économistes estiment que les cartels étant par nature instables, puisque l'un des acteurs peut être toujours tenté de tricher pour remporter la mise, ces cartels finissent par disparaître d'eux-mêmes, ce qui rendrait éventuellement la lutte contre ces pratiques inutiles. Qu'est-ce que vous pensez de cet argument, Emmanuel Combes ?
Alors ça, théoriquement, c'est tout à fait juste. C'est ce qu'on appelle le fameux dilemme du prisonnier. Si nous faisons une entente ensemble, vous aurez forcément une incitation à tricher, à baisser le prix en secret pour capter le marché. Sauf qu'en réalité, quand on regarde les statistiques, si cette théorie était vérifiée, si elle était vraie, alors les cartels devraient avoir une durée de vie quasiment égale à zéro. En clair, nous formerions un cartel et à peine formé, ce cartel exploserait. Ce que montrent les études statistiques, c'est qu'en moyenne, les cartels durent 7 ans. Et quand je dis 7 ans, la durée est minorée puisqu'on parle de cartels qui se sont fait attraper. Par définition, nous ne connaissons pas la durée de vie de ceux qui ne se sont pas fait prendre. Donc empiriquement, cela n'est pas démontré. Secondement, il y a des moyens pour empêcher une entreprise de tricher. Imaginez que nous formions un cartel et que je vous menace, si vous trichez, d'une guerre des prix sur tous les marchés. Imaginez que nous nous réunissions très fréquemment pour échanger des informations sur les contrats, ce qui est un moyen pour moi de vérifier que vous avez bien respecté l'accord. Eh bien, il existe des techniques qui permettent à un cartel d'être stable. Au fond, un cartel est stable si les membres de l'entente sont capables de mettre en œuvre entre eux une forme de police du cartel. Et c'est bien cela. C'est bien pour cela qu'ils se font parfois prendre.
Une police du cartel et une stratégie de long terme. Et là, ça peut exclure un certain nombre de stratégies qui ne pourraient pas se permettre financièrement, justement, d'avoir cette stratégie sur un plus long terme.
Complètement. Le dilemme du prisonnier, c'est bien connu en économie. Dès lors que vous le répétez sur un certain horizon, un horizon de long terme, vous n'avez plus forcément d'incitation à tricher. Car vous dites finalement, le gain que je vais réaliser à court terme en trichant sera compensé par quoi ? Par une sanction. Je serai exclu du cartel. Je serai exclu d'autres marchés. Il y aura des représailles ailleurs. Finalement, sous certaines conditions, il est possible qu'un cartel soit stable et donc durable.
Alors comment les différentes autorités de la concurrence luttent-elles contre ces cartels ? Je vous propose une illustration avec le cartel du yaourt qui a été démantelé en 2015. Virginie Beaumenier était alors rapporteure générale de l'autorité de la concurrence.
Ben là, vous voyez, il y a des noms d'entreprises, de distributeurs, avec les hausses qui sont envisagées. On signait des informations avec des réunions. Voilà, alors je ne sais pas s'il y a des dates. Oui, voilà, 26 octobre 2011, ça doit être la date d'un appel d'offres probablement que passaient les distributeurs. Bah, c'est une pièce essentielle pour la démonstration de l'entente, en fait. Hein. C'est en tout cas à partir de cette pièce que tout est parti. Alors là, vous avez les différentes entreprises qui s'entendaient pour les appels d'offres du distributeur Carrefour sur différents produits. Vous avez là, par exemple, les yaourts Bifidus, nature par 4. Le prix proposé par Senob, 0,58. Et vous retrouvez là, chez Lactalis, les Bifidus nature par 4, 0,58. Vous voyez un prix identique. Donc les entreprises ne se font pas concurrence.
Un extrait de l'émission Complément d'enquête diffusée en 2015 sur France 2. Cette année-là, les 9 producteurs de yaourts accusés d'entente sur les prix ont été condamnés à des amendes records. Une réaction, Emmanuel Combat, à cet extrait qu'on vient d'entendre. Et plus largement, comment se déroule une enquête? À quel obstacle faites-vous face en tant que vice-président de l'autorité de la concurrence?
Alors d'abord, ce qui est important de savoir, c'est qu'en effet, on n'est pas, comme le dit Virginie Beaumunier, dans une preuve intellectuelle. On est bien dans des preuves matérielles. C'est-à-dire, il faut arriver à mettre la main, si j'ose dire, sur des éléments documentaires qui permettent d'incriminer les entreprises. Ce peut être des emails, ce peut être des comptes rendus de réunions entre les membres du cartel. Et en effet, parfois, on a la chance de mettre la main sur des preuves qui sont accablantes. Donc ça, c'est très important du point de vue du droit. Les entreprises ne sont pas condamnées au terme d'un raisonnement qui dirait « les prix sont élevés, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils sont élevés, donc j'en déduis que vous avez fait une... » Non. Il y a des éléments très clairs. Maintenant, quant à la capacité à détecter ce type de pratique, c'est extrêmement complexe, car vous vous en doutez, c'est le jeu du chat et de la souris, si j'ose dire. Et en la matière, les entreprises ont souvent un temps d'avance. Ce qui fait que les autorités de concurrence utilisent plusieurs moyens, et notamment l'un d'entre eux, qui, vous le savez, marche très bien, notamment en Europe, qu'est ce qu'on appelle pudiquement les politiques de clémence. Le premier membre d'un cartel, donc participant, qui accepte de collaborer avec les autorités antitrust, c'est-à-dire au fond d'amener les preuves de la pratique, se verra proposer une immunité totale de sanctions.
Donc inciter à la délation, ça fonctionne?
Alors, délation, le terme est peut-être un peu fort, parce que dans l'idée de délation, il y a l'idée au fond de dénoncer quelqu'un qui est innocent. Là, on parle bien d'une entreprise qui participe à la pratique et qui va donc décider, pour un choix qui lui est propre, d'y mettre fin. Elle va peut-être décider d'y mettre fin parce qu'elle a peur qu'une autre entreprise la dénonce avant elle. Car ces politiques ne marchent qu'à une condition: il faut que seul le premier qui accepte de coopérer puisse se voir proposer l'immunité totale. Mais j'attire votre attention sur un élément assez intéressant, peut-être choquant, qui est qu'une entreprise peut tout à fait organiser un cartel, inciter les autres à venir dans le cartel pour ensuite les dénoncer. C'est ce qui s'est passé dans le cartel du fret aérien, une grande entreprise allemande, pour ne pas la nommer, a incité ses concurrentes à participer au cartel, puis les a dénoncées. Elle a donc bénéficié d'une immunité totale aux États-Unis, mais également en Europe.
Immunité totale, ou est-ce qu'il y a des cas où il y a tout de même une amende qui correspond au montant des bénéfices qu'elle a retirés de l'affaire?
Immunité pour l'entreprise, mais il n'en demeure pas moins que les autres entreprises vont payer une amende. Secondement, il est possible d'avoir aussi une immunité partielle si vous venez en rang 2, en rang 3, mais par définition, plus vous venez tardivement, moins il est probable que vous puissiez bénéficier d'une exonération. Donc il y a vraiment cette idée, pardonnez-moi l'expression, d'une forme de course à celui qui coopérera le premier, de peur de voir les autres le dénoncer bien avant.
Et quel bilan est-ce qu'on peut attirer de ces programmes de clémence depuis leur mise en place?
Alors en Europe, au niveau communautaire, cela marche relativement bien. Nous estimons que environ 2/3 des cartels qui sont détectés en Europe le sont grâce à ces programmes de clémence. En France, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Alors j'aurais pas d'explication claire à vous donner à cela, mais peut-être d'ailleurs pour des raisons historiques, parce que comme vous l'avez dit justement, dans la notion de politique de clémence, il y a peut-être cette notion tort de délation. Moi, je le vois souvent quand je discute avec des personnes étrangères, elles sont relativement amorales sur cette question. Qui veut dire, mais au fond, certes, dénoncer n'est pas forcément une bonne chose, mais attention, on met fin à des pratiques qui sont considérées comme illicites. Il ne s'agit pas de dénoncer, je dirais, des personnes ou des entreprises qui sont, entre guillemets, innocentes.
Et alors, face à ces pratiques, quelles sont les sanctions qui peuvent être prononcées, et sont-elles véritablement dissuasives? On en parle dans un instant.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Everything Counts de Depeche Mode sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Emmanuel Combe est toujours avec nous pour parler de la lutte contre les cartels et autres entorses au droit de la concurrence. Alors les sanctions financières restent le principal outil aujourd'hui pour réprimer les cartels, mais comment déterminer leur montant? Écoutons Patrick Hubert, l'avocat de la société Saint-Gobain, société qui était impliquée dans l'affaire du cartel des vitres automobiles démantelée en 2008.
La situation d'un marché est quelque chose de très important pour déterminer si une infraction, à supposer qu'il y ait eu une infraction, est-ce qu'une infraction a produit des effets économiques importants ou pas. Et en théorie, la sanction dépend des effets que vous avez produits. Mais la Commission applique ses lignes directrices avec une certaine, avec un certain esprit mécanique. Et le résultat, c'est qu'effectivement, elle donne des chiffres de sanctions colossaux par rapport à ce qui se faisait auparavant. Et la question qu'il faut se poser, c'est si c'est à la hauteur des effets que ces pratiques sont censées avoir eu. Parce que si les sociétés ont gagné effectivement des sommes de cette ampleur, c'est peut-être justifié. Mais si les pratiques qu'on leur reproche ont eu des effets limités, voire nuls, alors à ce moment-là, c'est effectivement un handicap qui est artificiellement imposé à ces sociétés.
Un extrait de l'émission sur les docs diffusée sur France Culture en 2010. Il faut tenir compte des dommages causés au marché pour déterminer le montant de l'amende, Emmanuel Combe.
Pas seulement, moi je parle. Je ne partage pas tout à fait l'avis de Maître Hubert. Lorsque vous commettez une infraction, la sanction dépend essentiellement de deux grands paramètres. D'abord, la gravité de la sanction, quel que soit le dommage que vous avez causé à l'économie. Or, vous le savez, en économie, un cartel, c'est la pratique considérée comme la plus grave. Pourquoi ? Toujours pour la même raison. Vous augmentez les prix sans qu'il y ait aucune contrepartie pour le client. C'est le même produit. Le produit n'est pas meilleur qu'avant. Simplement, vous faites un prélèvement, une ponction sur le pouvoir d'achat de vos clients. Donc la gravité est le premier facteur. Et d'ailleurs, au niveau européen, si vous faites un cartel, il y a une sorte de ticket d'entrée, si j'ose dire, qui fait que vous aurez une sanction qui ne sera pas inférieure à 15 à 25% des ventes annuel du marché que vous avez affecté.
C'est jugé beaucoup plus grave, pardon de vous interrompre, qu'un abus de position dominante,
bien sûr,
par exemple.
Bien sûr, le cartel, c'est vraiment la pratique la plus grave. Ensuite, en effet, on peut tenir compte des effets. Et bien entendu, plus les effets auront été larges, par exemple en termes de taille géographique, ou bien en termes de surprix, on peut augmenter les prix de 5%, de 15%, de 30%, même si en moyenne, on est plutôt autour de 15 à 17%. Bien entendu, on peut tenir compte, et il faut tenir compte des effets. Mais une sanction ne se réduit pas aux effets qu'elle a causés sur l'économie. On a enfreint la loi, et le fait d'avoir enfreint la loi vous expose à une sanction qui est fonction de la gravité. Et d'ailleurs, en droit français, la sanction est très claire, elle est fonction de la gravité et du dommage que vous avez causé à l'économie.
Et en même temps, une autre fonction de l'amende, c'est aussi de dissuader des velléités, justement, d'enfreindre la loi. Alors comment est-ce qu'on évalue le montant de l'amende qui permet d'être dissuasive ?
Alors, votre question est excellente parce que l'amende dissuasive, en tant qu'économiste, hein, elle est très claire, mais c'est très compliqué ensuite d'appliquer ce genre de principe parce que ça se heurte à pas mal de problèmes. Mais l'amende dissuasive, c'est celle qui tient compte de quoi ? De la probabilité de se faire prendre. Laissez-moi prendre un exemple quelques secondes. Imaginez que vous avez volé 10 euros et que la probabilité de se faire prendre est d'une chance sur deux. La bonne sanction n'est pas 10 euros, c'est 10 divisé par 0,5, c'est-à-dire 20. Ce qui revient à dire que l'amende doit être largement supérieure au gain illicite, parce qu'il faut tenir compte de la faible probabilité de détection. Donc, les économistes ont toujours milité en faveur d'une forme de dose de dissuasion. Bref, le discours des économistes, quel est-il ? Mettez des amendes qui soient au moins égales au gain illicite, sinon c'est un, entre guillemets, pousse au crime.
Bien sûr, et alors qu'en est-il aujourd'hui ? Est-ce que vous diriez que les amendes sont dissuasives ?
Alors, j'ai mené une étude avec une collègue, Constance Monnier à Paris 1, sur 50 ans de cartel en Europe, et nous avons recalculé les amendes théoriques, dissuasives, et nous avons comparé aux amendes effectives. Et on arrive à une conclusion très claire, c'est que la Commission européenne, à partir des années 2000, notamment sous l'ère Mario Monti, est vraiment passée à la vitesse supérieure, a mis des amendes extrêmement fortes. Mais elle ne surdissuade pas, elle a simplement comblé son retard. Donc pour répondre à votre question, pendant très longtemps, les amendes étaient largement sous-dissuasives. Aujourd'hui, on peut considérer en effet qu'elles constituent une véritable menace pour les entreprises, qui l'ont d'ailleurs très bien compris. Regardez, toutes les grandes entreprises aujourd'hui mettent en œuvre ce qu'on appelle des programmes de conformité, pour que les cadres, que les managers respectent les règles de droit. Oui, les amendes sont devenues relativement dissuasive.
Mais est-ce que dans les faits, ce qu'on constate, c'est qu'il y a moins de cartels aujourd'hui que dans les années 80 ou 90?
Alors là, c'est très compliqué, puisque par définition, il faudrait connaître l'échantillon de toutes les entreprises qui forment des cartels, ce que nous ne connaissons pas. Ce qui est sûr, c'est que le montant des sanctions en valeur absolue et en pourcentage du chiffre d'affaires a eu tendanciellement à augmenter. Et on voit très bien dans le cas français, on a notamment, vous le savez, en France, imposé des amendes de plusieurs centaines de millions d'euros, ce qui n'était pas le cas avant les années 2000.
Alors ce qu'il faut souligner, Emmanuel Combes, c'est que l'État n'est pas le seul acteur à lutter contre ces cartels. Les victimes des pratiques anticoncurrentielles peuvent demander réparation, et c'est notamment assez courant aux États-Unis.
Alors c'est très important. Souvent on nous dit, j'entends, les Américains sont beaucoup moins sévères que les Européens. Les Européens se tirent une balle dans le pied, ils sont les seuls à punir leurs entreprises. De cette manière, d'abord, ils ne punissent pas les entreprises européennes, ils punissent des entreprises qui ont fait des cartels. Ce peut être des entreprises japonaises sur le territoire européen. Et surtout, on oublie de dire qu'aux États-Unis, une fois que vous avez été, je dirais, attrapé par les autorités antitrust, le pire commence. Les sanctions pénales, nous y reviendrons peut-être, et surtout les victimes qui vont vous courir après et qui obtiennent parfois des dommages et intérêts considérables. Pourquoi ? Car aux États-Unis, tout est fait pour que la victime, c'est-à-dire le consommateur, puisse demander réparation. C'est intéressant, ça veut dire que finalement les règles de concurrence, ça n'est pas que l'affaire des pouvoirs publics, c'est aussi l'affaire du citoyen consommateur.
C'est lui qui est lésé au premier ordre.
Complètement. Alors, ce que l'on voit aux États-Unis, par exemple, c'est des pratiques qu'on appelle des pratiques de triple dommage. Si vous m'avez, entre guillemets, prélevé $1 de manière illicite, je suis en droit de vous demander $3 de réparation, ce qui n'est pas du tout la tradition en Europe continentale. Autre phénomène, aux États-Unis, les class actions. Je vais engager une action contre une entreprise qui a fait un cartel et le juge va rendre sa décision au nom de milliers, voire de millions de petits consommateurs. Donc tout est fait aux États-Unis pour que les victimes demandent réparation. Ce qui fait que lorsqu'on compare les sanctions aux États-Unis et en Europe, il ne faut pas oublier d'intégrer dans les sanctions toutes les réparations qui parfois sont plus importantes que les sanctions infligées pas les autorités antitrust.
Et alors, est-ce qu'on peut imaginer en Europe des class actions, des actions collectives qui ressembleraient à celles qui existent
aujourd'hui? Oui, alors ça se développe depuis peu, puisque la Commission européenne a mis en place une directive en 2014 qui impose à tous les États membres de favoriser justement ce droit à la réparation. Donc on voit en effet, dans les grandes affaires de cartel, se mettre en œuvre ce système de réparation. Mais on n'en est pas encore au niveau observé aux États-Unis.
Et par ailleurs, vous l'avez dit, Emmanuel Combes, la dissuasion peut passer par la poursuite au pénal des personnes qui se sont rendues coupables de ces pratiques. C'est quelque chose qui est en train de se développer également ?
Alors pour le coup, le pénal reste encore, si j'ose dire, le monopole d'un pays, les États-Unis. Aux États-Unis, si vous commettez une infraction telle qu'un cartel, qui est considéré, je le rappelle, comme un complot, le terme exact, je crois que c'est félonie, un complot contre le marché, vous êtes passible de sanctions pénales extrêmement dures. Chaque année, je regardais les statistiques, c'est 30 à 40 personnes physiques qui vont en prison pour des peines de prison de l'ordre de 2 années de prison. Donc vous voyez, des sanctions très lourdes. Pourquoi ? Parce qu'au fond, aux États-Unis, il y a l'idée que si l'on veut lutter contre cette pratique, il faut non seulement toucher les actionnaires, car qui paye l'amende ? Ce sont les actionnaires. Mais également ceux qui ont mis en œuvre sur le terrain ces pratiques, qui sont ce qu'on appelle les managers, c'est-à-dire les dirigeants. En Europe, cela n'existe pas ou peu, cela existe sur le papier, typiquement en France, vous pouvez être poursuivi si vous faites un cartel, en réalité ça n'est jamais appliqué. Les Anglais ont essayé de mettre cela également en œuvre, mais on voit bien que ce n'est pas la culture européenne.
Et pour quelle raison ? C'est pour une question de culture essentiellement ?
Oui, moi je suis persuadé que les peines de prison ne sont pas des peines adaptées, en tout cas au cas européen, parce que ça n'est pas considéré comme une pratique suffisamment grave que de faire un cartel. N'oublions pas que envoyer quelqu'un en prison, ça veut dire que la pratique est stigmatisée. Vous demandez à quelqu'un dans la rue ce qu'il pense d'un cartel, alors il a pensé plutôt au cartel de la drogue qu'à cartel entre entreprises, et il vous dira, écoutez, sans doute c'est quelque chose qui n'est pas bien de s'entendre sur les prix, mais ça n'est pas suffisamment grave pour mériter des peines de prison. Donc, à titre personnel, mais cela n'engage que moi, je pense que la voie de la prison n'est pas une voie adaptée. Nous n'avons pas la culture anglo-saxonne. Par contre, il existe d'autres voies extrêmement intéressantes qui commencent à se développer, notamment au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, vous avez un système qui permet de disqualifier une personne qui a participé à une pratique de cartel. Qu'est-ce que ça signifie ?
Elle ne pourra plus exercer sa profession.
Peut-être pas ad vitam aeternam, mais pendant un certain temps, elle est en quelque sorte mise hors jeu. Ça existe d'ailleurs déjà en France, dans un autre domaine en matière financière. L'autorité des marchés financiers peut disqualifier, par exemple, un gestionnaire de patrimoine qui aurait mésinformé ses clients ou qui aurait abusé de leur confiance. Je trouve que c'est intéressant parce que ça me semble être une sanction plus proportionnée que la peine de prison qui, pour moi, est vraiment un autre univers et qui, pour l'heure, est essentiellement réservée au cas américain.
Ça pose en tout cas la question, Emmanuel Combes, de la responsabilité des acteurs dans la formation de ces cartels. Est-ce que la responsabilité est à mettre du côté des managers ? Et ça pose la question des intérêts qu'ils trouvent dans ces cartels et aussi des intérêts que les actionnaires aussi peuvent y trouver.
En fait, la question est très compliquée, car vous avez raison, on pourrait considérer qu'un manager n'est qu'un exécutant de l'actionnaire. L'actionnaire, c'est après tout celui qui possède l'entreprise et donc c'est lui qui donne ses consignes. Mais c'est une vision un petit peu théorique. On sait bien qu'en réalité, l'actionnaire n'est pas dans l'entreprise. C'est le manager qui dirige l'entreprise au quotidien et il peut avoir un intérêt personnel enfreindre la loi, notamment pour percevoir des rémunérations conditionnelles qui vont être indexées sur des performances de court terme. Or, quelle est la grande qualité, si j'ose dire, la grande caractéristique d'un cartel, c'est qu'elle permet d'augmenter les prix et donc les profits de manière très rapide. Elle permet également d'avoir une performance aussi bonne que celle des concurrents. Alors, vous le savez peut-être, dans certaines entreprises, votre rémunération est indexée non seulement sur ce que vous avez fait, mais sur la performance de vos concurrents. Si on s'entend tous, on a la même performance et on touchera qui les stock options, qui le bonus. Donc je pense qu'il peut y avoir, il ne s'agit pas de généraliser, mais il peut y avoir parfois une incitation personnelle d'un manager et cette incitation peut être renforcée par des biais psychologiques, notamment un biais bien connu qui est le biais qu'on appelle de surconfiance. Je maîtrise les règles de droit parce que je suis éduqué, donc je trouverai les moyens d'échapper à la détection. On peut aussi avoir un biais qui est bien connu, qui est le biais qu'on appelle le biais de disponibilité. Finalement, les cartels, on n'en détecte pas tous les matins. C'est pas quelque chose de très courant. Ça ne fait pas la une des journaux. Donc, quand un événement est rare, vous considérez en réalité qu'il n'existe pas. Donc, il y a un certain nombre de biais qui font que vous pouvez avoir, malheureusement, parfois, il ne s'agit pas de généraliser à nouveau, une incitation naturelle d'un manager à se dire, écoutez, finalement, pour créer de la valeur, il n'y a pas 36 solutions. Soit j'innove, c'est compliqué d'innover. Soit éventuellement, je m'entends avec mes concurrents sur les prix. Et du coup, ça légitime une intervention de l'État, mais cette fois-ci sur le mode poursuite des individus. Ça légitime aussi une action des entreprises, et c'est ce qu'elles font aujourd'hui, pour prévenir les individus. Notamment, je pense, les fameux programmes de conformité que vous avez dans toutes les grandes entreprises, si vous êtes un manager, vous avez l'obligation de suivre des cours de droit de la concurrence.
Alors, il y a tous ces cas illégaux que l'on vient de détailler, mais ce qu'il faut dire peut-être, c'est que toutes les ententes entre les entreprises ne sont pas illégales. Emmanuel Combes, les firmes peuvent par exemple décider de vendre leurs produits à certains distributeurs seulement. Ces pratiques-là sont tolérées ?
Oui, attention, les ententes ne sont pas interdites en tant que telles. Ce sont les ententes qui ont pour seul objet, pour seul but et pour seul effet de restreindre la concurrence. Prenons un cas d'entente qui, normalement, est plutôt béni. Imaginez que deux entreprises décident de s'entendre pour faire de la recherche en commun. Chacune n'a pas assez d'argent pour investir dans la recherche. Il serait quand même complètement ridicule de les empêcher de s'entendre. Elles vont s'entendre, elles vont mettre en commun leur accord de recherche-développement. C'est autorisé. Ça, c'est une entente horizontale. Les ententes verticales, par exemple, entre un producteur et un distributeur, sont en général, plutôt regardées d'un œil bienveillant. Mais attention, toute entente, même verticale, n'est pas forcément licite. Imaginez un producteur qui dit à ses distributeurs « Je vais vous sélectionner, vous avez le droit de vendre mon produit, mais pas d'autres. » Ça, c'est plutôt licite. Attention au degré, de contrôle que vous avez sur lui. Si par exemple, vous lui dites « Je vais fixer tes prix de revente. » Ça, c'est une entente qui serait considérée comme illicite. Un producteur ne peut pas imposer à son distributeur un prix de revente. Mais vous avez raison, toute entente n'est pas interdite, surtout si elles permettent de générer des gains d'efficacité.
Et alors, vous parlez de la nécessité pour certaines entreprises de coopérer pour innover. Pour quelles raisons est-ce que les entreprises ont besoin de s'allier justement pour innover?
Elles peuvent s'allier déjà pour partager les coûts. Imaginez que pour trouver un vaccin, il faille mettre sur la table $1 milliard. C'est-à-dire, si vous mettez moins, votre probabilité de trouver est nulle. J'ai 500 millions de dollars, vous en avez 500 millions. Si on cherche chacun dans notre coin, la probabilité sera égale à zéro. Nous avons intérêt à chercher en commun pour que la probabilité de trouver devienne positive. Donc, premièrement, partager les coûts. Ça peut être aussi partager les risques. Ça peut être aussi de la complémentarité technologique. Vous êtes très forte sur un aspect de la recherche. Moi, je suis très fort sur un autre aspect de la recherche. En conjuguant nos forces, nous irons plus vite. Donc attention, les ententes, tout particulièrement en amont de la concurrence, en recherche-développement, sont en général plutôt regardées favorablement.
Et pourtant, de fait, elles nuisent à la concurrence. Il y aura moins de produits différents à la fin.
Pas forcément, parce qu'on peut tout à fait faire de la recherche fondamentale ensemble et ensuite se différencier en aval. Imaginez des constructeurs automobiles qui chercheraient un moteur en commun. Pour autant, nous clients n'achetons pas un moteur, nous achetons une voiture et les constructeurs se différencieront ensuite en aval. Donc je dirais l'activité est en amont, moins elle affecte négativement la concurrence en aval. Donc en général, on est plus clément sur ce type d'entente.
On le voit avec le cas par exemple des moteurs d'avion qui sont vendus à Boeing comme à Airbus. C'est un exemple qu'on peut donner. Alors ce qu'on constate en tout cas, c'est que la concurrence entre les entreprises doit non seulement être efficace, mais elle doit être aussi loyale. C'est ce que nous explique l'économiste Frédéric Jenny.
Le droit à la concurrence est fait pour quoi ? C'est fait pour permettre de préserver la concurrence, c'est-à-dire empêcher ces techniques. Et donc le droit à la concurrence va avoir à définir jusqu'où les entreprises peuvent aller trop loin et quelle est la ligne jaune au-delà de laquelle elles ne peuvent pas aller dans leur comportement. Et il y a un deuxième objectif sur lequel il y a un peu moins d'accord, qui est la question de savoir est-ce que au-delà de l'efficacité, est-ce qu'il faut aussi préserver la loyauté ? Alors la loyauté, le point extrême et l'endroit où il y a une différence d'approche entre les États-Unis et l'Europe, c'est surtout le point dans lequel on met en œuvre, quand on a un certain pouvoir de marché, des pratiques qui se font au détriment des petits concurrents. Là, la question est de savoir, est-ce que on est simplement dans son jeu d'efficacité, comment on est plus efficace qu'eux, on met en œuvre les pratiques qui conviennent, ou est-ce que c'est déloyal, parce qu'on est meilleur qu'eux, d'utiliser ces techniques ?
Un extrait de l'émission Le Bien Commun, diffusée en 2006 sur France Culture. La frontière est parfois ténue entre ce qui est loyal et ce qui ne l'est pas, Emmanuel Combes.
Oui, c'est très compliqué parce qu'en fait, il y a deux niveaux d'analyse. Je vais prendre une image, l'image finalement du football. Au football, on ne joue pas avec la main, ça c'est le droit de la concurrence au sens strict. Mais par contre, au football, tout le monde n'a pas la même taille, la même vitesse, le même club, les mêmes moyens financiers, les mêmes conditions d'entraînement. Or, ça affecte bien le résultat final. Et malheureusement, le droit de la concurrence ne traite pas de cet environnement, de cette loyauté. Le droit de la concurrence, c'est au fond l'arbitre qui, le jour du jeu, dit simplement, vous avez mis la main, vous avez fait une entente, vous avez abusé de votre position dominante, et là, je vous condamne. Mais pour moi, le sujet de la loyauté heureusement ou malheureusement, je dirais plutôt malheureusement, échappent au droit de la concurrence. Finalement, la loyauté, c'est les conditions mêmes de la concurrence. Et ça, ça relève de facteurs qui lui sont étrangers.
Et alors, qu'est-ce qui est considéré, par exemple, comme une pratique concurrentielle déloyale en Europe, Emmanuel Combes ?
Une concurrence déloyale, ça serait peut-être d'abuser de sa position, seulement de sa position dominante, mais par exemple, d'appliquer des prix discriminatoires. Je n'applique pas les mêmes prix selon mes clients, je ne justifie pas la manière dont je sélectionne mes distributeurs, mes conditions de vente ne sont pas transparentes. Tout cet aspect déloyal n'est pas traité directement par le droit de la concurrence et pourtant il affecte les conditions de la concurrence.
Et alors les avantages fiscaux, par exemple, dont peuvent bénéficier les entreprises dans certains pays européens, peuvent être considérés comme de la concurrence déloyale ?
C'est de la concurrence déloyale, mais ce n'est pas du droit de la concurrence, quoique en Europe, au travers des aides d'État, on peut parfois retrouver ces considérations.
C'est Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la concurrence, qui pousse pour que ce soit reconnu comme aide d'État illégale.
Quand elle fait condamner, la commission condamne l'Irlande à récupérer 13 milliards d'euros d'aide octroyée à Apple, c'est bien au fond une forme de concurrence fiscale qui a été, si j'ose dire, sanctionnée par le biais des aides d'État. Mais ce n'est pas prima facie le rôle principal de la politique de la concurrence que de régler ces disparités, que ce soit en matière de fiscalité ou de droit du travail. Vous voyez bien que les conditions de droit du travail affectent nécessairement les conditions de la concurrence dans tous les secteurs en Europe. Mais le droit de la concurrence n'a pas normalement à s'exprimer sur ces questions.
Alors il y a la question du droit du travail en Europe et la question du droit du travail hors des frontières européennes. Il serait difficile de considérer comme déloyal le fait que des produits chinois arrivant en Europe vont coûter moins cher parce que les coûts de production sont inférieurs en Chine, par exemple.
Alors moi j'ai une position assez tranchée là-dessus. Elle n'engage que moi-même. Moi je pars du principe qu'en effet, la concurrence c'est pas la similitude. On ne demande pas aux acteurs d'être identiques. En effet, si les Chinois ont un coût de production qui est plus faible, ce qui est d'ailleurs à relativiser, puisque vous le savez, les salaires ont fortement augmenté en Chine depuis 20 ans, ça fait partie de son avantage comparatif. On ne peut pas reprocher, parce qu'à ce moment-là, si on reproche aux Chinois d'avoir un coût du travail trop faible, les Chinois pourraient nous reprocher d'avoir de belles montagnes, une belle mer et de bons produits. Ça fait partie intrinsèque de la compétition. La compétition, je le répète, ça n'est pas la similitude. On ne demande pas aux joueurs d'être identiques. On leur dit simplement, si vous jouez, vous devez respecter à l'intérieur de l'Europe les mêmes règles du jeu.
Et puis parfois, on prend pour de la concurrence déloyale ce qui est en réalité le signe d'une efficacité supérieure de telle ou telle entreprise. Vous donnez par exemple l'exemple de la compagnie aérienne Transavia France. Et vous disiez justement que cette compagnie avait été accusée de concurrence fiscale et concurrence sociale indue. En l'occurrence, c'est aussi un certain nombre d'avantages qu'elle a été capable de mobiliser dans sa stratégie.
Oui, je crois qu'il faut faire très attention là-dessus. Alors, loin de moi l'idée de défendre le modèle low cost à tout prix, mais attention à ne pas identifier concurrence à identité. On peut faire de la concurrence différemment. Toute la question est de savoir est-ce qu'on respecte les mêmes règles du jeu. Et le fait que les règles du jeu ne soient pas les mêmes, à nouveau, ça ne relève pas malheureusement du droit de la concurrence. Ce qu'on appelle le same level playing field, ça relève, je dirais, de décisions politiques. C'est aux États européens de se mettre d'accord sur un certain niveau minimum, si j'ose dire, en matière de droit du travail, mais on ne peut pas reprocher une entreprise d'utiliser finalement les manquements de l'Europe. Si vous prenez le cas de Ryanair, alors on peut s'en plaindre, il faut s'en plaindre. Mais Ryanair, au fond, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle joue sur le fait qu'il n'y a pas d'Europe. Mais en tant que telle, elle ne viole pas le droit européen. Et d'ailleurs, la Cour de justice a rendu des arrêts relativement contrastés sur le sujet. Donc attention, le droit de la concurrence ne peut pas régler ces problèmes de concurrence fiscale, de concurrence sur le marché du travail. Ils sont légitimes, loin de moi l'idée de dire qu'ils ne sont pas légitimes.
Mais
ça n'est
pas le rôle de l'autorité de la concurrence.
Non. Le droit de la concurrence, c'est l'histoire de l'arbitre qui va empêcher de jouer avec la main, c'est-à-dire le droit des ententes et le droit de l'abus de position dominante, c'est-à-dire finalement quelque chose d'assez limité.
On arrive presque au terme de cette émission, Emmanuel Combes. Selon vous, quels sont les prochains défis auxquels devrait être confrontée l'autorité de la concurrence, les nouvelles stratégies qui peuvent être mises en place par les États et qui rendent peut-être plus difficile le travail de l'autorité de la concurrence aujourd'hui ?
Alors, pas que de l'autorité de la concurrence, mais des autorités de la concurrence. Moi, je vois au moins deux défis pour aller très vite. D'abord, le défi du numérique. On voit bien qu'avec l'économie numérique, on a la constitution de nouveaux monopoles, sans doute parce qu'il y a des considérations économiques. hein, des effets de réseau, etc. Toute la question est de savoir à partir de quand la position dominante peut devenir abusive. Et là, on peut se féliciter d'avoir un droit de la concurrence en Europe. Je vous rappelle quand même que Google, grâce au droit de la concurrence, a pu être, je dirais, condamné pour trois pratiques abusives.
Donc, 1,5 milliard d'euros le mois dernier.
Voilà, loin d'être les idiots du village mondial dont on nous affuble parfois, je dirais que heureusement qu'on a le droit de la concurrence en Europe. Donc, il y a ce débat sur le numérique. Et le second débat, c'est bien sûr le débat sur la mondialisation. Que faire lorsqu'on a un partenaire étranger ou un acteur étranger qui ne respecte pas forcément les mêmes règles sur son territoire? Mais à ce moment-là, ça n'est pas du droit de la concurrence stricto sensu, c'est plutôt du droit de la négociation commerciale entre l'Europe et son partenaire, en l'espèce la Chine.
Donc vous êtes plutôt confiant dans la capacité des autorités de la concurrence à réguler les pratiques abusives?
Bah, j'irais même plus loin, je crois que heureusement qu'il nous reste en Europe le droit de la concurrence pour affronter ce débat majeur auquel on n'échappera pas, qui est le débat sur le numérique et la constitution de nouveaux géants qui sont en réalité des quasi-monopoles.
Un grand merci Emmanuel Combes.
Merci à vous.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Et pour conclure cette série de chroniques consacrées à l'effondrement de la biodiversité, vous avez choisi de revenir aujourd'hui sur les décisions prises par Emmanuel Macron en réponse à cette crise du vivant sans précédent.
Mais oui, après la remise du rapport de l'Agence de l'ONU pour la biodiversité, rappelant la destruction en cours de plus d'un million d'espèces vivantes par l'homme, le président de la République était bien obligé, si ce n'est d'agir, tout au moins de communiquer. C'est donc ce qu'il s'est empressé de faire devant un parterre de journalistes trié sur le volet. Le chef de l'État a commencé son allocution en expliquant que ce qui était en jeu n'était rien de moins que la possibilité même d'avoir une terre habitable. Dans une déclaration d'une vingtaine de minutes, Emmanuel Macron a ainsi appelé un changement profond de modèle économique et notamment de nos modes de production. Le problème, c'est que 2 ans après son élection, le bilan du président Macron est loin d'être à la hauteur des nobles enjeux dont il se fait aujourd'hui le héros. Ainsi, le chef de l'État a-t-il rappelé sa volonté de se passer du glyphosate à l'horizon 2021? Ce sont pourtant les parlementaires de sa majorité qui ont refusé d'inscrire cet objectif dans la loi, faisant toujours et encore le pari de l'engagement volontaire pour changer les pratiques.
Le chef de l'État a également renouvelé son ambition de lutter contre l'artificialisation des sols.
Oui, un objectif qui était d'ailleurs déjà compris dans le plan biodiversité présenté en 2018, et toujours sans calendrier, mais surtout qui n'en rentre pas en contradiction complète avec un certain nombre de projets promus par le gouvernement, du percement du tunnel Lyon-Turin à l'érection du monumental centre commercial d'Europa City, en passant par le grand contournement ouest de Strasbourg. Le gouvernement n'a cessé d'apporter son soutien à des projets démesurés d'aménagement du territoire, engloutissant sous le béton toujours plus d'espaces naturels au nom du développement et de la croissance.
De nombreuses voix se sont également élevées pour dénoncer la volonté du gouvernement de simplifier les procédures d'autorisation environnementale, entre guillemets.
Absolument, mais ne fuyez pas derrière ce vocabulaire bureaucratique et ardu. La réalité est en fait très simple. Le gouvernement prévoit de supprimer par décret la consultation systématique du Conseil national de protection de la nature avant l'autorisation d'un projet d'aménagement de grande ampleur. Si cet avis n'est que consultatif, il est néanmoins suivi dans la plupart des cas par la puissance publique qui y trouve l'éclairage nécessaire avant d'autoriser ou d'interdire la construction d'une autoroute, d'une grande surface ou encore d'un parc éolien. Avec le projet de décret, le Conseil serait saisi de la plupart de ces consultations qui seraient désormais examinées par les conseils scientifiques régionaux dont les membres seraient nommés directement par le préfet, représentant de l'État sur les territoires. Pas exactement la même chose donc.
Le Conseil national ne serait plus saisi que dans un nombre limité de cas où une espèce menacée d'extinction serait directement mise en danger.
Exactement. Or, comme l'explique Mediapart dans un article consacré à cette question, cette liste est pour le moins contestée puisqu'elle n'a pas été actualisée depuis 1999 et ne recense actuellement que 37 espèces, toutes mammifères, oiseaux et poissons de l'Hexagone, dont 2 qui n'existent déjà plus, excitent donc les invertébrés, les plantes et toute la biosphère des dom-toms pourtant largement menacée. Comme se désole un membre du Conseil, la priorité du gouvernement c'est l'aménagement et non la protection de la nature. L'objectif est donc clair, il est toujours et encore le même, faciliter, fluidifier, encourager un modèle de développement et d'expansion de l'homme et de l'économie, toujours et encore aux dépens du vivant.
Merci beaucoup Arjuna, on vous retrouve donc lundi pour une nouvelle chronique des nouvelles de l'Écho. Et comme un jeudi sur 2, nous retrouvons Guillaume Duval, notre partenaire d'Alternatives économiques. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Et vous êtes venu aujourd'hui avec le chiffre du jour, 13 milliards d'euros.
Oui, vous en avez déjà parlé, mais c'est la somme qu'Apple a dû payer en septembre 2018 à l'État irlandais après que la Commission européenne ait jugé que les conditions fiscales particulièrement favorables offertes à cette firme par l'Irlande constituaient une aide d'État illégale. C'est en effet au nom de la défense de la sacro-sainte concurrence libre libre et non faussée que la commissaire danoise, la très libérale Margrethe Vestager, a pris cette décision.
La concurrence fiscale ne fait-elle pas partie pourtant de cette émulation que l'Europe veut favoriser au sein du marché unique ?
C'est le cœur du sujet en effet. Jusque-là, c'était le point de vue que défendaient peu ou prou toutes les instances européennes. La principale mission de la Commission européenne consiste à défendre cette concurrence au sein du marché unique. Et c'est un domaine où elle a des pouvoirs très étendus. Non seulement il lui revient de débusquer les infractions à la concurrence des acteurs privés et publics, mais elle peut aussi les sanctionner sans avoir besoin de demander l'accord des États, comme vient de le faire Margrethe Vestager dans l'affaire Apple.
On peut donc en réalité lutter contre le dumping fiscal intra-européen beaucoup plus facilement qu'on ne le croit, Guillaume.
C'est pas encore tout à fait sûr pourtant. Les États et les entreprises sanctionnées peuvent en effet contester les décisions de la Commission devant la Cour de justice européenne, comme ont choisi de le faire dans le cas précis, Apple et l'Irlande. Il faudra donc attendre encore le verdict final des juges pour savoir si on peut légitimement considérer que le dumping fiscal, loin de faire partie du jeu normal de la concurrence en Europe, la fausse au contraire. C'est une idée qui n'a cependant rien de révolutionnaire. Beaucoup de libéraux purs et durs la défendent, c'était déjà notamment le cas du très libéral commissaire néerlandais Frits Bolkestein, prédécesseur de Madame Vestager, qui avait lui aussi cherché à limiter pour cette raison le dumping intra-européen sur l'imposition des bénéfices des entreprises, sans toutefois aller jusqu'à recourir à l'arme des aides d'État illégales que vient d'utiliser la commissaire danoise.
Mais si la justice confirme cette sanction, Guillaume, on pourrait donc rapidement mettre un terme au dumping fiscal de l'Irlande, du Luxembourg, des Pays-Bas.
En effet, à condition bien sûr que la pression citoyenne se maintienne et que la prochaine Commission européenne en ait la volonté politique suffisante. Margrethe Vestager a brusquement découvert, 60 ans après la signature du traité de Rome, que la Commission disposait déjà en réalité de puissants moyens juridiques pour combattre ce dumping fiscal, bien que les traités prévoient normalement que l'unanimité est nécessaire en matière d'harmonisation fiscale.
Et alors pourquoi cette révélation maintenant ?
S'il en est ainsi, c'est évidemment parce que dans les suites de la crise de 2008, la situation budgétaire des États européens s'est beaucoup dégradée. Pour y faire face, ils ont partout augmenté les impôts sur les classes moyennes et les classes populaires ou baissé les dépenses dont elles bénéficient, sans pour autant taxer davantage les très riches ou les bénéfices des multinationales à cause de ce dumping fiscal. C'est ce qui a suscité partout la montée du populisme qui menace aujourd'hui la survie de l'Europe. Confrontés à une urgence politique aussi forte, les juristes ont, comme toujours, trouvé un moyen d'agir.
Merci beaucoup Guillaume, et je précise que la une d'Alternatives économiques ce mois-ci est consacrée à l'Europe avec cette question: à quoi sert encore l'Europe ?
Little darling, don't you see the sun shining just for you only today.
On se quitte avec Cecilia Bertolini, Corner of the Earth. Merci beaucoup Emmanuel Combe de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans les méandres des législations antitrust. On se retrouve demain pour une émission d'actualité économique consacrée à la robuste santé des États-Unis à l'heure où l'Europe abaisse ses prévisions de croissance. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.